Allez, lancez-vous. Oui. Je vous passe le micro.
Ah non, il n'y a peut-être pas besoin. Non, à partir du moment où elle est hors de la maison, en fait, tout est tourné en plan séquence.
Oui. Pas en plan séquence, mais en long plan. Oui, en plan très long, oui, effectivement. Oui. Parce qu'un plan séquence signifie aussi une narration complète, ce qui n'est pas le cas. Mais un long plan, tout à fait d'accord. Oui. Ce que certains pourraient appeler en plan séquence. Et puis, oui. La couleur. Au passage, je voudrais dire la couleur. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de noir et blanc précisément? C'est du sépia. Pourquoi le sépia? Parce que vous savez, normalement, effectivement, dans un noir et blanc, on a du sépia parce que l'univers dans lequel vit Dorothy, que ce soit dans le livre ou dans le film, c'est un univers de grisaille. Et comme tous les films sont en noir et blanc, traditionnellement, si on montre que l'univers de Dorothy est dans le noir et blanc, ça ne donne rien. Si on met du sépia, le spectateur se pose déjà des questions et ça correspond un peu à l'état désertique du Kansas. Vous voyez? Voilà. Oui, et puis. Et oui, la maison est effectivement toujours sépia, c'est-à-dire qu'en fait elle est éteinte de cette manière-là, puisque la maison c'est le réel qui a fait irruption dans le monde du merveilleux. Donc le réel il reste quand même là. C'est très, très, très juste. Alors voilà. Effectivement, il y a une ambiguïté dans le magicien d'Oz et même dans l'apparition de la bonne sorcière, c'est qu'il y a toujours une petite menace latente. Mais ces menaces, on en parlera à propos du traitement de la bande-son. C'est surtout au niveau de la bande-son. Et puis, oui.
Il y a peut-être un petit clin d'œil avec le panier. Ça m'a interrogé ce panier qu'elle prend absolument.
Oui, alors effectivement, vous avez dans le magicien d'Oz une sorte de relecture et d'appropriation de beaucoup de motifs qui sont déjà présents dans d'autres contes. En fait, ce que vous dites, je vais vous anticiper ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est que Frank Baum disait que lui, il voulait écrire des contes pour enfants avec tout ce qui se trouve dans les contes pour enfants, avec quelque chose en moins, c'est-à-dire la violence qui s'adresse plutôt à des adultes, l'angoisse, la terreur. Il y aura certes des menaces, s'il en faut, mais elles seront toujours, sans créer chez l'enfant de l'angoisse. Donc ici, vous avez évidemment une relecture d'Alice au pays des merveilles, et puis aussi peut-être le panier du petit chaperon rouge, etc. Donc ce sont tous des éléments que vous pouvez faire voir à vos élèves. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr.
Est-ce que c'était projet? Malgré les 57 ans, je ne l'ai jamais vu.
Oui, c'est pas le seul. Hein.
Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, en fait. Est-ce qu'à l'époque, le fait d'avoir ce monde magique en technicolor, ce qui se voyait peu ou pas, est-ce que ça ne fait pas un peu le même effet qu'on a eu il y a 20 ans avec Avatar, qui arrive en 3D pour nous amener dans un autre monde et finalement qui renforce cet effet-là? Est-ce qu'on a quelque chose de parallèle?
C'est exactement ça. Oui. Parce que, si vous voulez, avant le magicien d'Oz, il y a eu des dessins animés de Walt Disney qu'on appelait les Silly Symphonies. C'est très chouette, hein, mais je vous les conseille. Et puis, il y a eu Blanche-Neige et les Sept Nains. Mais c'est cela, le premier film en technicolor. Il n'y a pas eu d'autres films en couleur avant, hein, bien sûr. Mais c'est le premier film en technicolor trichrome avec des acteurs en chair et en os. Et donc, là, vous avez mis le doigt sur le dispositif, c'est-à-dire qu'on passe du monde réel qui est bien triste, bien gris, bien sépia plutôt, au monde du rêve, du merveilleux, qui est en technicolor. Et le choix du technicolor est judicieux, parce qu'on en met plein la vue au spectateur, comme le fera plus tard Avatar, et en même temps, dans la mesure où on est dans un monde merveilleux, on peut faire accepter à l'œil du spectateur des couleurs saturées, criardes, absolument pas naturelles. D'ailleurs, on voit tout de suite que c'est du décor, et le décor se montre comme du décor. Pourquoi? Parce qu'au lieu de spectateur, vous entrez dans un autre monde, dans le monde du merveilleux, et à ce moment-là, avec la suspension de jugement dont vous parlez tout à l'heure, on entre dans cette lumière.
Est-ce qu'à l'époque, le décor se voyait comme un décor? Peut-être pas. Aujourd'hui, on est habitué parce qu'on n'a que des images qui sont parfaites, réalistes. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un jeu d'acteur qui était aussi très proche du théâtre.
Oui, bien sûr.
Mais finalement, ce décor, à l'époque, il devait passer comme un monde. Nous, il apparaît comme un décor parce qu'on a des nouveaux codes, mais je pense que...
Alors, bien entendu, alors là, vous touchez du doigt un autre problème, et qui est, d'une façon générale, le savoir spectatoriel et la suspension du jugement. Oui, les gens savaient que les films étaient tournés en décor, et oui, percevaient cette artificialité du décor, mais vous savez, quand on sortait du théâtre, on avait, je dirais, l'habitude du décor. Alors, puisque vous posez une question, posez une question de perception. Écoutez-moi, là, je suis désolé, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas pour vos élèves. Le problème qu'il y a entre le théâtre et le cinéma est le suivant. Au théâtre, ça, c'est un auteur qui a beaucoup réfléchi sur la question dans les années 30. Il disait, voilà, au théâtre, l'acteur est corps présent. Donc, le décor peut être totalement stylisé. Point. Donc, il suffit d'avoir une scène et dans la mesure où vous suivez l'acteur, il n'y a pas besoin de décor. Au cinéma, le corps de l'acteur n'est pas présent. Donc, vous êtes obligé d'avoir un décor le plus réaliste possible parce que si le décor n'est pas là et que le corps de l'acteur n'est qu'un fantôme, le spectateur n'entrera pas dans l'histoire. Donc, a priori, il faut qu'au cinéma, le décor soit plus, je dirais, entre guillemets, réaliste qu'au théâtre. Sauf qu'il y a quand même des souvenirs du théâtre. Il y a la convention qui fait qu'on est devant un spectacle et on accepte d'entrer dans le spectacle. Et à partir de là, suivant le type de film que vous avez, vous utiliserez plus ou moins le décor en le faisant ressortir comme décor, ce qui est le cas ici, puisqu'on est dans un genre codifié, la comédie musicale est merveilleux, ou en essayant de l'effacer. Vous voyez ? Donc, d'un film à l'autre, on va varier le degré de réalisme et de réalité du décor. Et la question que vous posez là est une question fondamentale qui porte d'une façon générale sur une vision cinématographique. Voilà. Là, on fait de la philo, carrément, si vous voulez. Voilà. Bon, excusez la parenthèse, mais il était nécessaire que je réponde. Hein. Alors, effectivement, ici, on est dans un décor qui se montre comme tel. Et d'ailleurs, l'artificialité du décor, elle est soulignée par la musique, puisque vous entendez des petits notions, des petits oiseaux, de façon très artificielle, hein, et les voix féminines qui sortent des fleurs ou d'ailleurs, et qui nous attirent dans le monde du merveilleux. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ça c'est amusant, parce que vous avez fait attention à beaucoup de choses, et vous n'avez pas fait attention à ce qui est typiquement cinématographique, c'est-à-dire le mouvement. Oui.
En fait, tout à l'heure, vous
avez
mis les caméras des 35 kilos.
Oui.
Et on voit que justement les mouvements de caméra, on sent qu'ils sont lourds.
Ah oui,
ils sont lourds.
Ils sont lourds, mais en même temps, ils sont très fluides et ils sont importants. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, on part de Dorothée, petit à petit, on passe devant au premier plan, je vais les éléments des corps, et après, on monte jusque assez haut, puisqu'on voit Dorothée prise dans une vision d'ensemble très, très importante. Et il faut savoir que même si là, le mouvement de la costume est lourd, je dirais qu'il est lent plutôt ici. Et pourquoi est-il lent? Parce qu'effectivement, si vous voulez, vous avez ce problème de la lourdeur de la caméra, mais vous avez aussi deux raisons. Première raison, c'est qu'il faut laisser le temps à l'œil du spectateur de découvrir le panorama de ce monde merveilleux. Surtout qu'il doit s'habituer au technicolor, il n'en a pas l'habitude à l'époque. Voyez. Et puis deuxièmement, aussi, c'est qu'à l'époque, le rythme des films et le bouger des caméras est beaucoup moins important que de nos jours parce que la perception de l'image a beaucoup changé. Vous savez, c'est un film qui date de 39, donc il a bientôt 80 ans. Et en 80 ans, notre perception de l'image a changé. Si vous voyez les films des années 60, le rythme est toujours beaucoup plus lent que de nos jours. Pourquoi? Parce que le spectateur a pris l'habitude que l'image a vite, surtout depuis qu'on a créé les films vidéo dans les années 80-90. Donc là, on fait aussi une histoire de la perception. Il faut savoir qu'au 19e siècle, un être humain, il voyait quoi? Même pas une centaine, un paysan, hein, je ne parle pas d'un aristocrate, il voyait une centaine d'images dans sa vie. De nos jours, on en voit des milliers par jour. Donc notre perception est tout à fait différente. Et le rythme aussi, vous voyez. Donc tout ce que vous dites, les uns et les autres, très intéressant parce que ça nous fait entrer dans le problème de la projection, de la réception spectatorielle. Ça, c'est pas pour nos élèves, mais entre nous. En revanche, il y a une chose que vous n'avez pas dite, enfin.
Oui. C'est-à-dire que la lenteur du panoramique.
Parlez fort,
la lenteur du panoramique, elle va permet aussi de jouer sur la musique, c'est-à-dire que là, on a une musique programmatique avec le son qui tire l'image. Au début, on a le rappel de déclinaison de Over the Rainbow. Après, microseconde avant de voir la Yellow Brick Road, on a déjà la musique qui est annoncée. Donc, on a toute la programmation en fait, de l'histoire qui s'annonce dans ce panoramique. Il faut du coup le temps en fait, qu'on prépare musicalement à ce que va suivre.
Exactement. Bravo. C'est excellent. C'est que je vais dire par là, vous avez utilisé un terme qui est très important, ce qui est l'ordre du programmatique. C'est-à-dire que là, vous touchez du doigt un autre problème cinématographique. Je ne pensais pas aller aussi loin avec vous aujourd'hui, parce que, excusez-moi, ça vous emmène loin de vos élèves, donc ça va être un peu frustré à ce niveau-là. Mais c'est que dans le cinéma classique, tout doit être écrit de manière à ce que chaque élément du film, que ce soit l'image, le son, les mouvements, les décors, tout ça, tout doit être écrit pour être justifié dans le déroulement de l'image et pour conclure à la fin. C'est ça le cinéma classique, en particulier hollywoodien. Et pourquoi? Pour des raisons simples. Les sous. Oui, parce que le cinéma hollywoodien, il veut que le spectateur soit pris dans l'histoire. Donc chaque élément qu'on lui montre doit être justifié, annoncer la suite, préparer la fin. Et par voie de conséquence, le spectateur sera pris dans le spectacle, il sera absorbé, et à partir de là, quand il va sortir de là, il va sortir évidemment avec un pied, hein, forcément. Parce que si on lui donne un film qui finit mal, il ne va pas avoir envie de retourner au cinéma. Donc le film finit bien, tout ce qu'on lui a montré l'a happé dans le spectacle, on a la fascination, et donc quand il va sortir, il va avoir envie d'acheter à nouveau une place, et ça va faire rentrer de l'argent. Donc la technique d'écriture, de narration, etc., sont inféodés à une question d'argent. Et la révolution de la nouvelle vague, par exemple, ça va être justement de casser tous ces codes. Par exemple, Belmondo qui se tourne vers le spectateur en lui disant si vous avez la mer, si vous n'avez pas la mer, si vous n'avez pas la montagne, allez vous faire envoyer. Mais ça, ça ne se fait pas normalement. Normalement, on ne s'adresse pas au spectateur au cinéma, sauf dans deux types de cinéma spécifiques, la comédie musicale. Et le burlesque. Parce que ça fait partie des codes du genre. Mais autrement, dans un film classique, on ne se pose pas sur le spectateur. Vous savez ça? Voilà. Et donc, quand Tarantino fait en sorte que les personnages soient en plein de direct à la caméra, alors qu'on est dans un genre codifié, il joue à la fois sur la narration classique et sur la narration moderne de la nouvelle vague. Ça, le cinéma qui pose moderne, vous allez chez Scorsese. Vous voyez? Donc, ça, c'est intéressant. Il faudrait faire un cours sur le montage et sur les différents types de cinéma.
Oui. J'ai une question que les élèves vont sûrement poser.
Oui.
J'imagine la réponse, mais vous avez peut-être une réponse exacte. Pourquoi à cette époque-là, l'enfant n'est pas joué par un enfant?
Excellente question. À la base, on voulait Shirley Temple, la petite fiancée d'Amérique, que je vous en parlais tout à l'heure. Elle avait 10 ans. Le problème, c'est que là, elle doit tenir sur les épaules un rôle qui est beaucoup trop lourd pour elle. Attention, il y a la fatigue. Il y a la nécessité de jouer, de danser, de chanter, ce qui est propre de la comédie musicale. Et il y a la nécessité de faire la promotion. Alors, il faut savoir que la malheureuse Judy Garland, qui est la mère de Lisa Minnelli, hein, il y a eu Lisa Minnelli avec le réalisateur qui chantait du pays. Pour Judy Garland, dans la bourrée de drogue, elle est devenue accro. Et c'est ça qui l'a provoqué sa mort. On l'a empoisonné littéralement pour lui permettre de tenir le coup. Attendez, compte de la souffrance, outre l'éclairage dont je vous parlais, on lui a comprimé les seins pour donner l'impression qu'elle est une petite fille de 12 ans, et pas de 16 ans, c'est là à l'époque. Torture, mais psychologiquement, et comme elle ne savait pas dire non, elle était trop gentille, on l'a épuisée des années durant, non seulement pour vos causes, mais aussi pour les films à venir, elle va mourir, mais vraiment. Donc, votre question va encore plus loin que ce que je pensais. Vous voyez ?
Étonnement de Dorothy, qui ne sait pas où elle se trouve. Faux raccord, regardez. Elle allait doucement, là, tout d'un coup, elle va vite. Bon. Donc, ça veut dire qu'après l'étonnement, elle est pressée de voir ce qui se passe. Elle ouvre la porte. Le thème de l'ouverture de la porte, c'est un thème qui est fondamental. Sur quoi va déboucher la porte ? Bonne ou mauvaise surprise. Angoisse. Vous voyez. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui. Alors là, vous voyez l'ombre portée, effectivement. De quoi s'agit-il? On ne sait pas, mais c'est une menace. Indéniablement. Vous avez raison. Elle ouvre la porte. Elle a vu ce qu'il y a derrière. Elle ouvre la porte doucement. Elle recule, prétendument pour sortir. D'accord. Et tout d'un coup, nous découvrons en même temps qu'elle l'émerveillement d'Oz avec la couleur. Et là, elle recule de la porte. Elle ne s'inscrit pas dans le champ pour nous laisser à nous, spectateurs, l'émerveillement de la découverte. Et la caméra regardée fait un léger travelling avant, c'est-à-dire que nous avons pris la place de Dorothée. En d'autres termes, il y a le passage de relais, le passage du témoin. Elle a commencé l'action, nous la finissons. Voilà. Vous voyez? Et à ce moment-là, ensuite, elle s'inscrit à nouveau dans l'image. Et ça, c'est une technique qu'on a trouvée géniale chez Scorsese dans Casino, quand on découvre Casino, parce qu'on voit d'abord par les yeux de De Niro, puis on quitte De Niro, puis De Niro s'inscrit à nouveau dans l'image. C'est déjà dans Le Magicien d'Oz. Vous voyez? Et à ce moment-là, pourquoi elle s'inscrit à nouveau dans l'image? Parce que elle nous sert à nouveau de relais. Donc, elle était notre relais, elle nous a passé le rôle de témoin, et maintenant, elle reprend le relais. Sauf que, donc la caméra se déplace très légèrement vers la droite, contre-champ sur son émerveillement, avec évidemment devant des couleurs et la feuille qui démontre, qui nous amène à regarder le visage de Dorothée pour nous dire « regardez son étonnement ». Vous voyez, la pointe de la feuille, parce que les cadrages sont travaillés ici. Et ensuite, on laisse le temps au visage de montrer tous ses sentiments. La caméra la reprend, donc à ce moment-là, on est dans le même plan. Sauf que cette fois-ci, la caméra prend son envol, c'est-à-dire que nous, elle prend son envol, elle quitte Dorothée, et ce faisant, nous-mêmes, nous quittons Dorothée. Pourquoi la caméra prend son envol? Et pour deux raisons. D'abord, parce qu'on veut nous montrer tous les décors et nous faire nous émerveiller avec les décors, mais c'est qu'en même temps, cet envol est aussi un envol, je dirais, quasiment spirituel, c'est-à-dire que nous nous envolons vers la merveille qu'est Oz. Sauf qu'on a ici à la fois un panoramique et un travelling circulaire, et le travelling circulaire, petit à petit, va nous ramener vers Dorothée. Et à ce moment-là, l'action va pouvoir recommencer. Voilà. Avec les chants des féminines. Quand on a... Ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez remarqué, il y a la maison qui vient de s'écraser, qui est dans le champ à gauche. Vous voyez? Donc, Dorothée est témoin, elle nous passe le témoin, elle redevient témoin, puis nous prenons notre envol avec la caméra. Et tout ça, c'est par un mouvement de caméra. En d'autres termes, on est ici à la fois dans le montage et au préalable, dans la mise en scène et dans le montage, avec une création spécifique d'articulation pour mener la caméra très haut. Et évidemment, tout ceci ne peut se faire qu'en studio, parce qu'il faut les projecteurs. Et puis, regarder simplement l'eau, eh bien, il a fallu mettre des dizaines et des dizaines de litres d'eau, de colorant, pour avoir une eau aussi bleue. Et tout à l'avenant. Travail considérable et un coût considérable. À l'époque, 2 600 000 dollars, ce qui est énorme. Alors de nos jours, ça équivaudra à une centaine de millions, mais en fait non, c'est une centaine de millions dans l'absolu. En réalité, c'est une production qui coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Vous voyez? Voilà. Pas de questions? Ça va? Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour vous de montrer ce petit extrait, de dire aux élèves, regarde, Dorothée nous invite à entrer dans le film avec elle, et donc on la suit simplement parce que la caméra la suit. Vous n'êtes pas obligé d'en dire plus. Hein. D'accord? Ce qui est important ici, c'est de voir que tout est placé sous le signe de la facilité. C'est l'impression qu'on veut donner dans une comédie musicale qui fait intervenir un univers dans lequel il ne faut pas angoisser le spectateur. N'oubliez pas les présupposés de Frank Baum que je vous disais tout à l'heure. Donc, joie, légèreté. Et puis, il s'agissait évidemment de prendre la suite de Blanche-Neige et les Sept Nains. En réalité, il y a eu 14 scénaristes qui sont intervenus à la suite sur le film, parce qu'il fallait être à la fois fidèle et en même temps élaguer certains passages qui auraient alourdi le film.
Ensuite, il y a le problème du technicolor. Et puis, il y a le problème de la technique. Alors regardez, vous avez l'empoisonnement du premier acteur qui jouait le bûcheron en fer blanc. Il avait un maquillage à l'aluminium. On était obligé de l'emmener à l'hôpital. Il est resté 3 semaines et il a vraiment failli mourir. De la même façon, comme je vous le disais tout à l'heure, la sorcière, elle a été empoisonnée par son maquillage de tout vert. Bon. Puis, Judy Garland, ça c'était votre intervention tout à l'heure, ben, elle doit jouer une enfant de 12 ans, donc amphétamine, compression de la poitrine, et avec ça, avoir le sourire et avoir les rides au son d'une petite fille. Pas facile, hein, quand même. Donc, ces personnages, les voici, je vous les ai expliqués tout à l'heure, et évidemment, Judy Garland, la voici, et non Shirley Temple. Vous avez anticipé la question que vous m'avez posée, normalement c'était une petite de 10 ans qui devait jouer, mais elle était quand même trop jeune, pas assez mature pour cela. Bien. Alors, une bonne idée d'adaptation. Maintenant, entrons dans la conception du scénario. Ce qui est génial pour moi, c'est que dans le livre original, au début, il n'y a qu'une page où on présente Dorothy et sa famille, en fait son oncle et sa tante. Point. Il n'y a personne d'autre dans la cabane, dans la ferme. D'ailleurs, cette ferme est toute petite, elle a juste 4 murs. Point. Dans le film, au contraire, il y a des ouvriers qui travaillent à la ferme. Et ces ouvriers, qui sont très gentils et qui, chacun d'entre eux, disent à Dorothy, tiens, tu devrais avoir un peu plus de cervelle, etc., ils préfigurent ce que seront les 3 personnages principaux qui vont accompagner Dorothy dans sa quête. Et en fait, les acteurs vont jouer à la fois les valets de ferme et à la fois le bûcheron, l'épouvantail, etc. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir un écho du monde réel dans le monde merveilleux, ce qui va pouvoir justifier le fait que, à la fin du film, Dorothée va se réveiller parce qu'elle avait pris un coup sur la tête, et donc tout se passe comme si, dans son rêve après le coup qu'elle a pris, elle avait transformé la réalité du monde qui l'entoure. Et donc il y a là une meilleure interpénétration du réel et du merveilleux, vous voyez. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au début du film, la sorcière incarne une vieille femme qui n'aime pas le chien, qui veut prendre le chien de Dorothée pour pouvoir le mettre à la fourrière. Et Dorothée s'enfuit de chez elle, et s'enfuyant, elle rencontre un personnage qui lui dit « Mais non, il faut que tu retournes chez toi, on va s'inquiéter, on t'aime. » Et quand elle retourne chez elle, elle a la tornade, et évidemment, elle est entraînée vers Rose. Tout ça, c'est ajouté par rapport au roman. Mais ça crée une fluidité entre le monde réel et le monde, je dirais, du rêve, vraiment intéressante, vous voyez. Et l'habileté du cinéaste, c'est que dans le générique, on vous donne le nom des acteurs, mais avec un seul des personnages qu'ils incarnent, alors qu'en général, ils en incarnent 2, voire plusieurs, vous voyez. Alors en particulier, Frank Morgan, il joue le professeur Merveille qui au début du film dit à Dorothée « retourne chez toi ». Puis il joue le magicien d'Oz, il joue le portier de la cité d'Émeraude, il joue le cocher qui emmène Dorothée et il joue le garde de la porte du magicien d'Oz. Et franchement, il faut savoir que c'est lui. Mais en même temps, vous voyez, c'est assez intéressant dans cette volonté finalement de comprendre que nous sommes dans un univers qui correspond à une sorte de rêverie qu'a créée Dorothée. Voilà. Tout va bien ? Bon. Alors, du livre au film, donc, le film respecte globalement le livre. Hein, comme je vous l'ai dit, on attend au tournant. Bon. Mais en même temps, il crée un lien entre le monde réel et le monde d'Oz. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est beaucoup plus moralisateur que le livre. Parce que finalement, quel est le message ? Je dis bien le message, je déteste le mot, mais c'est cela. Du film, c'est qu'est-ce qu'on aime mieux chez soi. Préférons le réel au monde, je dirais, imaginaire et fallacieux du monde d'Oz. Voilà l'idée de base. Vous voyez ? Bon. Alors, ce qui explique que finalement, tous, il s'agit de comprendre que le monde qui nous entoure est bien plus merveilleux qu'il ne le paraît. Pourtant, au départ, il faut voir que Dorothée est dans un univers qui n'est pas drôle du tout. Regardez, je vous ai recopié le début du roman. Bon.
du seuil de sa maison, Dorothée n'apercevait que l'immense prairie grise. Ni arbres ni maisons ne venaient rompre la monotonie de la plaine qui, de tous côtés, allait se perdre à l'infini. Craquelée par le soleil, la terre labourée étendait sa croûte grise jusqu'à l'horizon. L'herbe avait perdu sa verdure. Les têtes des hautes tiges, brûlées par les rayons ardents, se confondaient avec la grisaille environnante. La maison peinte jadis n'offrait plus que des murs aussi ternes, aussi gris que ceux qui l'entouraient, le soleil ayant fait des cloques dans la peinture, les pluies ayant délavé. Donc l'oncle et la tante de Dorothée rejoignent la grisaille ambiante. D'ailleurs, je vais vous lire le portrait de la tante. Donc, lorsque tante M vint vivre là, c'était une jeune et jolie femme. Le soleil et le vent l'avaient transformée. Elle aussi. Ils avaient éteint l'éclat de ses yeux, décoloré le rouge de ses joues et de ses lèvres. À présent, amaigrie et maussade, tante N ne savait plus sourire. Voilà. Alors, ceci a fait dire à certains critiques littéraires, ce que je veux bien croire, que derrière le roman, il y a une vision politique. En fait, il y a eu beaucoup de crises économiques aux États-Unis, bien avant celle de 1929, et la misère était souvent le lot de tout le monde. Et dans le livre de Beau, il y a cette traduction de la misère absolue qui est non seulement l'aspect désertique de la campagne, mais aussi en sous-main des crises économiques. Et donc, ce que veut faire Dorothée, c'est échapper à cette crise ambiante. Pour traduire cette grisaille ambiante, on a vu, on a mis du sépia et pas du noir et blanc. En revanche, quand Dorothée a compris que ce qui compte, c'est l'amour que son oncle et sa tante et les valets de fer le lui portent, eh bien, on est bien logé de soi, tout simplement. Il faut accepter le réel, voir ce qu'il a de bon, et pourquoi pas le transfigurer. C'est ça l'image, l'idée du film. Okay, bon. Mais, là encore, on a eu une initiation, c'est-à-dire une expérience. Et comme Calamity l'a fait dans le monde réel, Dorothée le fait dans le monde imaginaire, c'est-à-dire que, comme dans tout récit initiatique, elle a des épreuves qui la font grandir, forcément. Et maintenant, évidemment, le choix esthétique, puisque on a le rouge rubis alors qu'à la base c'était de l'argent. Pourquoi ? Parce que dans le Technicolor, ça marque davantage le spectateur. D'ailleurs, les chaussures en question valent une fortune, hein, véritablement une fortune. Et ensuite, évidemment, on est dans le problème des effets spéciaux. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aborder avec les élèves. Alors, il y a des décors. Il y a des décors en dur et des décors peints, mais il y a aussi quand même certains éléments. Vous avez vu que dans la tempête, il y a une grande modernité. Honnêtement, on y croit encore. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, il m'a semblé intéressant de vous montrer quand même qu'à l'époque, on faisait déjà beaucoup d'effets spéciaux, que ce n'est pas le propre des images numériques. Alors, je vous montre un petit extrait et après, nous avançons. Si jamais vous achetez le DVD du film, achetez-le en veillant à ce qu'il y ait des bonus, en particulier ce qu'on appelle le making-of dessus, parce qu'il est très très intéressant, vous entrez vraiment dans la conception de A jusqu'à Z du film, et ça vaut vraiment la peine, je vous le conseille. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'il s'agit à la couleur de joindre en même temps des effets spéciaux à l'intérieur d'une comédie musicale. Vous comprenez combien tout cela était bien complexe. Alors, ce qui est important, c'est il faut qu'on conserve la gaieté du roman initial. Donc, qu'est-ce qui est gai, qu'est-ce qui entraîne le spectateur, c'est la comédie musicale. Et regardez l'introduction à son roman de, comment dire, Baum, il disait « Magicien d'Oz aspire à être un conte de fées modernisé qui, tout en conservant l'émerveillement et la joie propres au genre, en bannissent les chagrins et les cauchemars. Hein. » Donc, il faut de la légèreté. Alors, on est dans la comédie musicale. La comédie musicale, c'est, je dirais, à la base, un spectacle de cabaret. Et au départ, dans les années 20-30, ce qui comptait, c'était la danse, qui était complètement déconnectée d'histoire, et en particulier le jeu des claquettes et des, je dirais, des scènes de ballet où vous aviez un ensemble de corps qui dansaient ensemble, qui dansaient, et non pas un personnage qui se démarquait. Petit à petit, on s'est posé la question de savoir quel est le rôle de l'intermède chanté et dansé. Est-ce qu'il doit être déconnecté de l'action, ce qu'on peut faire, parce que dans la comédie musicale, le spectateur accepte cela, ça fait partie du genre. Ou est-ce qu'au contraire, on va intégrer l'intermède dans l'action, c'est-à-dire le personnage principal qui chante et qui danse va entrer dans la chanson et dans la danse dans un certain état d'esprit, et quand la chanson et la danse vont se terminer, le personnage va sortir dans un autre état d'esprit, donc avec une évolution marquée, vous voyez. À ce moment-là, il s'agit d'intégrer tout cela dans le récit, de le justifier. Premier point. Deuxièmement, il faut des acteurs qui soient capables de jouer, de chanter, de danser. Pas l'un après l'autre, mais tout en même temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, il faut savoir que l'entraînement que l'on donnait aux acteurs dans les studios était un entraînement extrêmement rigoureux, parce qu'il y avait des cours de maintien, des cours de danse, des cours d'équitation, des cours de gymnastique, des cours de diction. On leur faisait perdre l'accent, on leur faisait prendre l'accent, des cours de maintien, des cours de... Enfin, je veux dire, c'était vraiment une souffrance pour eux. Et seuls les studios pouvaient se permettre de faire cela, parce qu'on créait des gens à la chaîne, et puis ceux qui ne donnaient pas satisfaction, au bout d'un certain temps, on les jetait littéralement. Et les comédiens étaient tenus par des contrats qui les engageaient pour plusieurs films, pour plusieurs années, etc. Donc c'est des objets, là. La machine à rêve était aussi une broyeuse de rêve. Regardez le film de Damien Chazelle qui s'appelle Babylone, qui est assez scandaleux, mais qui est très très bien pour traduire cette idée là de l'enfer qui était, je dirais, Hollywood à l'époque. Il y en a qui l'ont vu, Babylone, non? Mais voyez-le, ne montrez pas ça aux enfants, hein, quand même, mais bon. Alors, de ce fait, il y avait en plus une constante. Il est impossible d'être à la fois un parfait chanteur, un parfait comédien, un parfait danseur, sauf cas exceptionnel. Alors en fait, la qualité première de la femme, c'était de chanter et de jouer. Danser, ça venait en milieu. La qualité première de l'homme, c'était de danser et de jouer. Et chanter venait en dernier. Pourquoi ? Parce que on pouvait accepter que l'homme, s'il ne savait pas chanter, se contente de chantonner le reste de la chanson que lui jouait la femme. Mais dans la danse de l'époque, celui qui mène la danse, c'est l'homme. Donc il doit être meilleur danseur que la femme, puisque c'est celui qui mène le pas de danse. Vous voyez ? Bon, c'est pas machiste, hein, ce que je vous dis là, c'était la répartition des rôles traditionnels. Vous voyez, voilà. Évidemment, tout ceci nécessite énormément de répétitions, et ça nécessite en plus un orchestre et un compositeur, à la fois pour la musique, mais un compositeur ou des compositeurs pour les chansons. Et tout ceci coûte énormément d'argent, puisque en fait, les équipes, que ce soit les musiciens, que ce soit les compositeurs, etc., ils travaillent sous contrat avec le studio et ils produisent cela à la chaîne. Sauf que si c'était une chaîne, très bien, c'est à la chaîne pour les rythmes de travail, mais en réalité, à chaque fois, on fait un élément unique, ce qui rend votre travail encore plus difficile. Vous voyez ? Mais c'est une structure industrielle. C'est pour ça que dans les documents que je vous ai donnés, je vous ai donné quelque chose sur la comédie musicale, je vous ai donné quelque chose aussi sur les grands studios pour leur organisation. Et c'est ce qui explique aussi que de nos jours, on est moins de comédie musicale, pas seulement parce que la mode en a passé, mais aussi parce que pour avoir une comédie musicale aussi parfaite que possible au niveau des chorégraphies, il s'agit d'avoir des professionnels qui travaillent à leur compte sans arrêt. Or maintenant, les comédies musicales ne se font plus que par intermittence. Et à la limite, des fois on joue de cela, si vous voyez là la langue, tout n'est pas parfait parce que on dit ben, c'est normal, ça fait partie de l'histoire, mais en même temps c'est la preuve qu'on a perdu certaines habitudes, certains savoirs peut-être. Vous voyez ?
Donc, pour tout le monde, donner l'impression d'aisance, on en revient à cela.
Et puis, regardez cette image, ben, l'épouvantail, lui, il a simplement l'impression qu'il faut le remettre sur pied, mais il fait le grand écart. C'est pas évident. Vous voyez ? Et quand vous regarderez les bonus, vous verrez combien cet acteur était un véritable acrobate. Bon. Donc, en même temps, derrière cette apparence, il y a le récit d'initiation. Et là, on est en plein de ce qui intéresse aux élèves. Bon, regardez ce que disent les personnages. À votre avis, Os pourrait-il me donner du courage ? Demanda le lion poltron. Pourquoi pas s'il peut me donner de la cervelle, dit l'épouvantail. Ou me donner un cœur, dit le bûcheron en fer blanc. Ou me renvoyer au Kansas, dit Dorothée. Alors, petite remarque, on se demande si la notion de cœur n'était pas importante pour Bao parce qu'il était malade du cœur lui-même. Alors, ce qui est un écho personnel, ça c'est pour nous, c'est pour les élèves. Et puis, vous avez en fait l'idée suivante. Chacun de ces personnages pense manquer de, je dirais, cette qualité. En réalité, il a toutes ces qualités en lui. Et c'est là que c'est intéressant de voir que Rose est un charlatan, mais c'est un brave homme. Et il dit, moi j'ai tenu mon pouvoir en me cachant pendant des années, parce que je veux veiller sur les gens de la cité. S'ils voient que je suis un homme sans pouvoir, ils vont perdre confiance en moi, mais ils vont perdre confiance en eux, et tout va s'effondrer. Donc il se cache aux yeux de tout le monde pour qu'on ne voit pas sa faiblesse. Mais ce n'est pas seulement par mensonge, c'est par volonté de protéger. Mais quand on le découvre, il faut bien qu'il amène qu'il dise cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va expliquer aux différents personnages que toutes ces qualités, ils les ont en eux, mais que ce dont ils ont besoin, c'est de prendre confiance en eux. Et là, c'est très important pour nos élèves. Vous voyez? Cette notion de « mais tu peux y arriver, aie confiance ». C'est typiquement américain, hein, ça, vous savez, c'est la confiance. Vous connaissez le gag, un gamin tombe et se fait mal dans un bac à sable, la maman française lui dit « si mon chéri, tu es consolé, gros gâté, oh là là, tu n'y retrouves pas, tu ne retournes pas, c'est trop dangereux ». L'américain, mais c'est pas grave, vas-y, retourne-y, tu vas y arriver. Vous voyez ? Ça, c'est typiquement américain, hein, c'est bon. Mais. Donc, de ce point de vue-là, il y a le problème des sorcières. Il y a la bonne sorcière qui est Glinda. C'est un peu bizarre d'ailleurs, c'est un peu mijoté dans le film. Et il y a la méchante sorcière de l'Est. Bon. Ces deux sorcières, l'actrice qui a joué la sorcière a énormément souffert à cause des maquillages, mais en même temps, vous savez, on est souvent marqué par un rôle, et comme elle n'avait pas un physique très avenant, je pense qu'elle a beaucoup souffert du rôle qu'on lui a demandé de tenir. Elle avait 35 ans quand elle a joué le rôle, elle en paraît beaucoup plus, évidemment, en tant que sorcière. Hein, voilà. Bien. Et donc, la promotion, je n'y viens pas, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec les souffrances de Judy Garland. Mais ce qui est important maintenant, c'est les prolongements que le film a pu avoir. Et en particulier, très récemment, en 2024, il y a eu Wicked. Vous savez, dans la première partie, Wicked, ça veut dire méchant. Et il va y avoir la partie numéro 2. Et dans ce film-là, on s'interroge sur l'origine des deux sorcières, et en particulier, les origines de la méchante sorcière. Et à ce moment-là, on arrive à une période de formation des deux sorcières, Glinda d'un côté, qui est jouée par Ariana Grande, et d'autre part, Cynthia Erivo, qui joue Ephalba, c'est-à-dire la future méchante sorcière verte. D'accord ? Sauf que... Alors, ah, voilà. On s'aperçoit qu'à la base, Ephalba, elle est gentille. En fait, elle est verte depuis son enfance, donc c'est la réprouvée de service. Et pour bien montrer que c'est une réprouvée de service, on l'a affublée d'une paire de lunettes rondes qui nous renvoie tout de suite à la famille Madrigal. Hein? Vous voyez à quoi je fais référence ? À Encanto. Et puis, ensuite, c'est une actrice noire qui a le rôle de la sorcière. Et on devine qu'elle est noire derrière son maquillage. Pas neutre. Parce que dans le film Magicien d'Oz de 39, vous avez des personnages qui correspondent à des personnages du roman. Dans le roman, ils sont quelques-uns. Dans le film, ils sont une centaine. Et ils ont mis, pardonnez-moi l'expression, le souk sur le plateau. C'était des, je ne sais pas comment on dit maintenant, des hommes de petite taille. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ils sont gris, et c'était des adultes. Et on ne sait pas, c'est d'ailleurs une donnée du roman, si ces hommes de petite taille sont des enfants ou des adultes. Vous voyez l'ambiguïté. D'accord ? Ça ne passe plus aujourd'hui. Parce qu'on dit tout de suite qu'on est en train d'humilier une certaine... On dit qu'on les essentialise. Vous savez cette expression. Et le film a fait beaucoup parler de lui parce qu'on l'a accusé de wokisme à outrance. Et ça a créé une grosse polémique dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Vous saviez, je pense. Non ? Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une grande tension. Vous avez entendu parler de ce qui se passe avec le fait que Donald Trump veuille mettre toutes les universités au pas, supprimer certaines allusions à l'esclavage, supprimer certains ouvrages qui sont dans les librairies publiques, mettre au pas l'Université de Columbia. Vous avez entendu ça. Ça, c'est un coup de bâton en retour contre les wokistes qui ont demandé un exemple à ce qu'on change le titre des dix cabinets
d'Agatha
Christie et qui ont fait en sorte que Tom Hanks a présenté ses excuses pour avoir joué dans Philadelphia. Vous savez pourquoi ? Il a présenté ses excuses parce qu'il a joué un homosexuel atteint du sida et que lui, il n'est pas un homosexuel atteint du sida et que par voie de conséquence, il n'avait pas le droit de jouer un homosexuel atteint du sida. Voilà où on est le débat public aux États-Unis entre le terrorisme, je dirais, révisionniste et le terrorisme conservateur. Ça fait peur hein, quand même. On n'en est pas loin, c'est bien en France. Hein. On est conscient de ça. Vous voyez ? Donc, il n'est pas question d'être politiquement incorrect et c'est pour ça qu'il y a une relecture de tous les mythes, de toutes les légendes. Regardez souvent les sorcières qui étaient méchantes dans les contes originaux, maintenant deviennent des bonnes sorcières qui font le bien, même si elles ont l'air mauvaises. Vous avez remarqué ça? Et il y a même eu une relecture de Blanche-Neige et les Sept Nains par Walt Disney qui a fait scandale, et maintenant Walt Disney revient en arrière parce que la tendance a changé et qu'on perd les sous. Vous voyez un peu tout ça va. Voyez. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? C'est que ça peut être intéressant pour vous de voir avec les élèves, simplement on ne parle pas de ça aux élèves, mais de voir simplement que vous avez ici une relecture du mythe. Ah ben oui, c'est l'heure, il faut pas qu'on arrête. Une relecture du mythe qui nous montre que les personnages qui étaient méchants à l'origine peuvent être des bons personnages. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'éloge de la douceur et voici les quelques pistes pédagogiques qui nous restent. C'est-à-dire, pour les élèves, le résumé du film, le genre du film, le récit initiatique, la morale du récit, les différents types d'obstacles, l'étude de la couleur, la tonalité du récit, les mouvements de la caméra, la chanson, donc vous pouvez l'étudier, qui montre les états d'âme de Dorothée. En fait, elle dit que tout est gris chez elle et qu'elle rêve d'aller de l'autre côté de l'arc-en-ciel. L'analyse de séquence, l'étude de tableau, l'étude des livres d'extraits. Et d'une façon générale, la comparaison des héroïnes de contes de fées. Donc en conclusion, qu'est-ce qui est le marqueur entre les deux films que nous avons étudiés ce matin? Eh bien, vous avez d'une part l'initiation et l'émancipation pour tout le monde. D'autre part, en sous-main, le féminisme dans le premier film. Dans un autre, une morale beaucoup plus traditionnelle, c'est qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Ça peut être intéressant pour les élèves et leur dire que finalement, l'un ne va pas forcément sans l'autre, l'un ne va pas forcément contre l'autre. On peut s'émanciper et se trouver bien chez soi. Voyez. Mais dans les deux cas, volonté avant tout et prise de confiance en soi. C'est un très très important pour les gamins. Et d'une manière générale, acceptation finalement de l'idée qu'il faut se faire respecter, mais qu'aussi on peut aider les autres à s'améliorer en s'améliorant soi-même. C'est pas mal hein, comme programme ce qu'on propose. Voilà.